Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Le geste dit la route et le temps dit le voyage. Parfois ma mémoire me frôle longtemps après la nuit, longtemps après la fin des rêves, et m'offre l'eau des rivières, le nom des arbres et le prénom des filles. J'ai la mélancolique ébriété des jours inadvenus, soirées suspendues doucereuses, jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'excès, là où le passé n'est que berceau où l'osier s'est tressé. J'aurais voulu être ce baiser à livre ouvert, au premier vent de l'automne, mais je suis né et je suis mort avant que ma vie ne commence, dans un passé irrésolu, aux longs étés de somnolence. J'aurais voulu des agendas de carton noir et des vols des tourneaux, et je n'entends plus que les voix d'avant, si proches que le bras et la main et le souffle, papillon gris pris dans l'étreinte du buis, violence éblouie d'une nuit à rire ou à pleurer d'ennui. Il n'est de nous que frissons, il n'est de mots que nus et naufragé. Alors, j'annonce jusqu'au vertige des numéros sans personne à l'autre bout, calendrier de l'absence et des pièces vides où la folie se joue à face ou pile. Alors le temps retravestit l'inadéquate adéquation des souvenirs et l'allié insoucieux, insouciant, se cache sous l'agenouillement des feuillages, dans l'incestueux ressassement de ses insomnies, et je vois l'allié, et je vois la sauvagerie du lierre, comme une lèpre, assaillir les poutrelles du pont. Je t'oublie tous les jours, et j'apprends, et j'apprendrai à mentir sur mes doigts, tout œil est blanc brûlant, tout deuil est blanc hurlant. Je n'ai plus que mes mains et ma voix pour dessiner le silence et ta nuque qui se penche vers l'aube. Sans doute reverrai-je ces jours enfuis à frémir debout, à dormir loin de nous quand la danse n'était pas encore un onanisme épileptique, que nos pas anonymes et hantés, ne s'épuisaient de rien, où ton visage ruisselait d'ombre, autant que de lumière. J'attends la pluie, la première goutte est pour ma langue, la seconde est pour tes lèvres, celle qui viendra après nous survivra et l'adore. Insouciante, insoucieuse, et l'adore et l'allier. Oui, 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 j'oublie. J'oublie le livre où l'on voulait répertorier le nom de toutes les rivières et lire à haute et inintelligible voix le lent période de leur lit. Je ne sais rien de l'heure qui vient, ni de celle qui suivra. J'ai à la bouche l'humide des cailloux. Alors je me tais, j'ai défait mes lacets, j'attends la pluie.
Claude Nierflex, on a du mal à prendre la parole après un tel texte. Est-ce qu'avant qu'on vous présente rapidement, ouais, vous pourriez nous en dire quelques mots? D'où il vient ce texte?
Alors, ce texte est un texte récent, je dis récent, parce qu'il a 3 ans. je dis des bêtises. Il a à peu près 3 ans, il correspond à l'époque où je suis revenu du Sud-Ouest sur ma région, sur là d'où je viens, sur là d'où j'ai mes origines, c'est-à-dire à Bourgoin-Jallieu, et où je me suis trouvé à revisiter un certain nombre de souvenirs de mon époque d'adolescence à Bourgoin et de mes années de jeune adulte, allez, entre 20 et 30 ans. Donc c'est des souvenirs de cette époque, c'est-à-dire des souvenirs évidemment modifiés, retravestis, que j'ai pris sous forme de petites notes journalistiques. Et puis, tout cela est mélangé avec ce que j'avais devant ma fenêtre à l'époque, qui était un temps de printemps, etc. Et j'ai mélangé les deux temporalités en les travestissant. Elles se sont amalgamées l'une dans l'autre et ça a donné ce texte. Le fait de mélanger les deux temporalités permettant pour moi de mettre ce que j'appelle un masque ou un filtre de façon à pas m'épancher sur un souvenir qui, à la limite, n'intéresserait que moi, de façon à être plus dans quelque chose qui puisse toucher les gens. Il y a deux rivières qui sont citées, la Dore et l'Allier, mais bien entendu, pour en avoir discuté avec des gens, tout le monde peut y mettre les noms de rivières qu'il veut, parce que je pense que des noms de rivières, ça peut parler. Voilà, donc ce texte faisait partie de tout ce corpus qui a été fait sur l'adolescence et sur l'âge de jeune adulte, qui a correspondu à un moment donné où je reconstruis mes repères en revenant là où, c'est une incongruité grammaticale, je veux dire, là où j'appartenais. Voilà.
Alors Claude, comment tout cela a commencé ?
Alors ça, c'est compliqué, il y a plusieurs démarrages. Le premier, c'est quand j'ai à peu près 20 ans, c'est-à-dire maintenant ça fait quand même pas mal d'années en arrière, où comme pas mal de gens, je me suis essayé à écrire de la poésie. Alors peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir après, je sais pas si on peut peut-être en parler maintenant, où j'ai commencé à écrire en anglais. J'étais à l'époque étudiant à la fac de Lyon et je préparais les examens donc par rapport à l'anglais pour devenir prof d'anglais. Et j'ai acheté, parmi les premières choses que j'ai achetées, je me souviens qu'il y avait un livre de Truman Capote, On Voices of the Rooms, il y avait Jack Kerouac, On the Road, et puis il y avait un livre de Shelley qui s'appelait Prometheus Unbound, Le Prométhée délivré. Je me suis aperçu, et je croyais que l'anglais était une langue binaire qui fonctionnait pour la musique, ce qui est une réalité. J'ai pu le savoir, etc. Mais je me rendais pas compte que effectivement on pouvait. Et Shelley m'a appris ça. Par la suite, Leonard Cohen m'a aussi appris ça. Et j'ai eu envie d'écrire en anglais. Pourquoi ? Alors, pourquoi écrire en anglais ? Tout simplement parce que je m'étais aperçu que les petits textes que je m'autorisais en français. J'utilise le verbe « je m'autorisais », parce que je m'autorisais à écrire en français, mais je gardais, j'étais bien à l'intérieur des cordes du ring, je sortais pas, c'était assez scolaire, etc. Tout ça. L'anglais n'étant pas ma langue maternelle, n'étant pas la langue dont je maîtrise les codes, je m'autorisais beaucoup plus facilement à briser un certain nombre de tabous, à oser plein de choses, et je me suis aperçu après, et quand je suis revenu au français, donc après, ça a changé ma façon, je pense, d'écrire. Alors ça, c'est le premier truc. Après, il y a deux choses. Il y a 35 ans de ça, l'engagement dans un mouvement pédagogique d'éducation nouvelle, qui est le GFN, le Groupe Français d'Éducation Nouvelle, dans lequel il y a un secteur poésie-écriture. Donc, je me mets à travailler là-dedans. Et vers 1986, on va fêter maintenant les 30 ans, avec un certain nombre de copains qui ont les mêmes amants et les mêmes origines, on décide de fonder une revue. Alors, fonder une revue pour plusieurs choses, parce que dans le GFEN, on fonctionne sur des a priori philosophiques, mais qu'on met au feu de la réalité, qui sont le système du tous capables. Et on dit tous capables, effectivement, en écriture, y compris dans l'écriture poétique, qui est pour certains un domaine réservé ou un domaine où la théorie des dons fait floresse. Donc, on va là-dessus. Les copains de chez nous ont inventé, parmi les premiers, les ateliers, les premiers ateliers d'écriture. Je parle ici de Michel Ducombe, de Pierre Collin. Pierre qui est parti et Michel qui est toujours là. Je fais un petit salut au passage. Donc, l'atelier d'écriture, on l'utilise plus sur son versant pédagogique par rapport à tout un tas de publics dans le cadre de travail. On va dire un travail de militant, je mets des mots autour, et je rajouterai, comme je l'ai souvent fait, l'homme illicite au bord du temps. Ça, c'est le militant. Bon. Donc, on est là-dessus et on a voulu, à un moment donné, on s'est dit, on est persuadé que le tous capables, ça fonctionne, y compris sur l'écriture, qui est un domaine réservé, dans lequel on nous dit, vous pouvez pas y arriver, les gens peuvent pas y arriver. Donc, on va essayer de faire la preuve dans le cadre d'un travail où il y aura une validation et une reconnaissance sociale à travers la publication, de faire la preuve que ça fonctionne, que ce qu'on écrit, c'est pas des textes de cliniciens, c'est pas des textes d'expérimentateurs fous, c'est simplement des gens qui écrivent, c'est une école littéraire, comme une autre, ça fonctionne, et que quelque part, ça peut faire la maille, ça peut fonctionner, et ça peut avoir une qualité qui sera reconnue dans ce petit monde, qui est le monde de l'édition poétique. Donc ça, c'est le... Voilà. La revue, elle part là-dessus, elle a maintenant 30 ans. Après, il y a encore plein de choses à dire, puisque ça a évolué. Ça a évolué au fil du temps. Donc, c'est difficile de parler de ça, si ce n'est que cette revue, elle a fonctionné très vite avec plusieurs invariants, on va dire. On a pendant longtemps fait comme beaucoup, on a invité un poète à chaque fois. Puis on a abandonné un petit peu l'idée. On avait invité Jean-Claude Izot à un moment donné. Bon, il était malade, il n'avait pas pu venir. Bon, voilà, on a fait tout un tas de choses, de gens comme ça. Dans les invariants, il y avait le fait, on s'est dit, on va travailler à la fois sur des thèmes, des thématiques. Alors en général, c'était une phrase ou une métaphore, et puis on travaille dessus. Ça, c'est des textes sur le fond. Et on a fait du travail sur la forme, c'est-à-dire on s'est dit, on va essayer de revisiter toutes les formes poétiques qui, historiquement, à un moment ou à un autre, ont existé, s'en réemparer, telles qu'elles étaient, les refaire, et en même temps essayer de voir si on pouvait trouver des moyens d'opérer ce qu'on a appelé, nous, un dépassement de cette forme pour l'inscrire dans notre modernité, pour voir si ça fonctionnait. Ça marche, plus ou moins. Donc, on a fonctionné ça, il y a eu les invités, on s'est très vite positionné aussi en tant qu'éditeur associatif, c'est-à-dire qu'au-delà de produire une revue, donc d'être dans un projet, y compris que c'est un projet de vie, hein, au sens fort du terme, il y a eu un certain nombre de collections qu'on a pour l'instant mis en sommeil, qu'on espère reprendre. Alors après, il y a eu tout un tas de choses qui peu ou prou marchent, même si elles ont eu des vicissitudes. On avait ce qu'on appelait des ateliers tournants, c'est-à-dire que entre deux comités de rédaction, puisqu'on se réunit en comité de rédaction, le comité de rédaction étudie les textes qu'il reçoit, le comité de rédaction discute, débat de ce qu'il doit faire, des initiatives, lit les textes, etc. C'est soumis à l'ensemble du comité de rédaction. On fait des ateliers d'écriture entre nous qu'on teste, etc. Et tout ça. Donc il y a effectivement pas mal de travail. Les ateliers tournants, c'était un atelier qui est fait et on se l'envoie par courrier et on tourne de manière à revenir avec ça. On a eu des dispositifs à destination des abonnés pour les mettre aussi en situation d'écriture. Donc on soit quelque part dans une recherche d'égalité, en quelque sorte. Voilà, et puis il y a eu ce genre de choses. Il y aurait d'autres choses, peut-être qu'on y reviendra après.
If I should leave you, try to remember all the good times. Long days filled with sunshine. just a little bit of rain.
Toujours sur Couleur FM 97.1, au fil des arts. Claude, qu'avons-nous entendu ?
Alors, musicalement parlant.
Oui.
Alors, la première ponctuation musicale, ce sera une américaine. La deuxième, ce sera la même américaine. Et la troisième, ce sera également la même américaine. C'est une chanteuse de blues qui a la particularité d'être une blanche. C'est pas, parce qu'en général, c'est plutôt associé à la musique noire, qui est morte il y a une bonne vingtaine d'années, qui est peu connue, qui est quelqu'un qui a une voix d'une fragilité extrême, toujours sur le vertigineuse, parce que c'est entre équilibre et déséquilibre, avec un vibrato absolument phénoménal. C'est quelque chose qui, émotionnellement, est c'est quelque chose qui bouscule énormément. Elle s'appelle Karen Dalton. Et le premier morceau, j'ai oublié le titre, c'est Little Bit of Rain.
Très bien. Et maintenant, peut-être un petit texte.
Alors, un texte. On a commencé à parler de la revue.
Soleil et
Cendre. Voilà. Soleil, S, Cendre, Cendre, S. Alors, un petit truc très, très, très vite. Quand on a imaginé ce titre, on en a débattu pendant 24 heures. On s'est battu, on a vérifié que le titre n'existait pas. Et à un moment donné, on avait presque envisagé Ciel et Cendre, parce que ça ressemblait à Sol et Sombre, etc. Moi, je me suis battu pour ça. Les copains sont battus pour Soleil et Cendre. Ils ont eu raison. Je leur en ai voulu à mort pendant 2 jours. Et maintenant, c'est devenu Soleil et Cendre. Et j'assume totalement le titre et le projet de la revue. Alors, un texte qui est un texte collectif relativement récent, qui est un texte qui est un texte de fiction, un texte métaphorique, et qui en même temps donne peu ou prou un peu le dessous des cartes à travers quelques éléments théoriques sur une conception possible de l'écriture poétique. J'aime écrire. Anarchiste bordélique, jamais vous ne m'obligerez, mais sans contrainte, point d'écriture, seulement ce soleil derrière la colline. J'aime écrire en atelier, brutalisé par la contrainte. J'aime cette apparente agression contre ma conviction libertaire d'une écriture affranchie, décontractée et magique. Je n'écris qu'en atelier, avec ou sans les autres. Même seul, j'écris en atelier. Je n'écris pas sans étreinte avec le corps des mots, sans me plier à une forme, un temps, un nombre, pour au bout du compte me déplier, volant, au lieu de rampant. Refaire surface dans l'inédit de soi. L'écriture m'interprète, moi qui ressasse dans le flux et le reflux, mes pierres, mes écorchures. Ainsi, au bord du monde, se polissent mes galets. Que sais-je ? Que sais-je de la vague et du vent ? De la main qui les prend, des rires ou des ricochets, j'écris en rafale, un grain, soudain, une bourrasque, j'écris en trombe, qu'il soit question d'un texte par jour ou d'un texte par an, de 10 textes en un jour ou d'attente lancinante du suivant, et souvent 1000 fois le même texte, un seul et même texte pendant 1000 jours. J'écris cet hémophile crachat. Ce cri saturé, maquillé de nuit et d'urgence, et je dis que la mort est en moi, dans l'exaspération des mots, l'intime blessure où s'enclôt le désir, l'étrange étreinte entre le sens et le rien, presqu'il, presqu'elle. J'écris au plus près de l'ombre et de la peur de l'ombre, au plus près de l'amour, aussi près du vertige. Dans le ciel élancé, j'écris jusqu'à ce que s'évanouisse la langue. Je vibre, je vis. L'écriture est autre chose que du verbe qui se transcrit.
Claude, il y a les mots, il y a le texte écrit, mais il y a vous qui le faites vivre.
Oui, alors, bon, c'est pas original de dire que je me suis aperçu avec le temps que lire était un plaisir rare que je connaissais pas et que j'ai découvert et dans lequel je prends de plus en plus de plaisir. Il faut d'ailleurs que je fasse attention parce que basta. Alors, peu importe. Alors, ça c'est un texte qui a été fait collectivement dans le cadre d'une réunion du comité de rédaction, qui est un texte. Ça fait partie de ces textes qui souvent vont ouvrir un numéro pour donner des pistes de travail, de réflexion, ou pour donner une couleur possible, éventuellement, au numéro. C'est du travail qui a été fait collectivement par tous les membres. Ensuite, on a essayé de mélanger, mais de façon à garder une cohérence à l'intérieur du texte, et les textes collectifs qu'on a fait, qui est une structure qu'on est parmi les rares revues, peut-être la seule à faire, on essaye de le garder régulièrement dans un peu tous les numéros qu'on utilise, qui sont des textes qui sont à la fois de la fiction et de la théorie, qui mélangent les deux, qui donnent à voir des choses sans expliquer, parce que l'explication, ça n'a pas vraiment de sens, mais qui sont censés mettre à jour, dévoiler un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants pour les gens dans le cadre de l'écriture ou par rapport éventuellement à la thématique. On le fait régulièrement, on continue à le faire avec plus ou moins de bonheur. Parfois, ça fonctionne, d'autres fois un petit peu moins bien. Voilà, ça. Alors, c'est un texte collectif.
Est-ce qu'on peut mettre en relation ce que vous êtes en train de nous dire avec quelque chose que vous nous avez dit quand nous avons préparé l'émission? Vous disiez, la poésie s'appuie sur deux éléments, l'idéel et le matériel.
Oui, alors pour ça, je pense qu'il faut revenir à ce qu'on appelait l'atelier d'écriture. Les ateliers d'écriture, il y en a une infinité en France depuis quelques années. Sous cette appellation, il y a un nombre incroyable de choses très différentes. Il n'y a pas de statut d'ailleurs de l'animateur d'atelier d'écriture, j'y reviendrai après, ça c'est une histoire. Donc ça a été inventé il y a longtemps, à la fois par des gens qui étaient plus dans des recherches psychanalytiques. Nous, on est sur le domaine de la création. Et c'est des copains du GFEN, j'ai cité leur nom tout à l'heure, Pierre Collin et Michel Ducom, qui ont inventé ce qu'on appelle l'atelier d'écriture. Alors d'abord, à destination de public scolaire ou de public un petit peu de toute catégorie, pas automatiquement dans la production de textes, dans la production d'une revue ou dans un produit artistique. Voilà. Donc tout ça, ça vient d'il y a une quarantaine d'années. Alors, il y a des invariants dans un atelier d'écriture. on s'est aperçu que énormément de personnes qui écrivaient avaient des fonctionnements qui étaient parfois un petit peu identiques, mais qui avaient été rarement théorisés. On s'est aperçu, entre autres choses, ce que nous, on a appelé... dans l'écriture, il y a en fait deux domaines. L'école, au sens large, quand je dis l'école, c'est l'institution. Les institutions n'apprennent qu'à utiliser quelque chose qui est très balisé, qui est une écriture normée, qui est une écriture qui profite à ceux qui ont la chance d'avoir un arrière-plan culturel et tout ça. Nous, on a dit, voilà, dans l'écriture, il y a ce qu'on appelle, ou dans un mot, ou dans une expression, il y a ce qu'on appelle le pôle matériel et ce qu'on appelle le pôle idéal. Alors, le pôle idéal, sans s'apesantir dessus, je ne sais pas, si j'ai le mot sommeil, je peux avoir repos, sieste, postprandial. C'est tout ce qui vient, qui est sollicité, qui est suscité par ce mot générique. Tout ça, c'est l'idéal. La plupart, l'école travaille sur ça. Elle ne travaille que sur ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle le pôle matériel. Le pôle matériel, c'est la chair du mot. C'est ce qui le constitue dans le génie que représente chaque langue. La chair d'un mot, c'est les lettres, c'est les syllabes, c'est les sonorités, c'est les sons. Et ce mot-là, il faut le triturer. Il faut même le torturer. De sommeil, on va faire soleil, on va faire éveil, on va faire molosse, on va faire etc. et tout. Et c'est ce matériau, ce premier matériau, qu'on peut constituer, qui va servir de base et de point de départ. On n'a pas toujours, on a rarement quelque chose à dire. Par contre, on peut se constituer, comme un maçon qui construit un mur, on peut se constituer des choses. Et ces éléments-là, c'est le point de départ. Alors après, il faudra voir comment ça s'utilise, mais ça, c'est la base de départ. Beaucoup font ça, on l'a théorisé, et on l'a mis en avant, et on l'a fait utiliser massivement, avec plein d'autres consignes et contraintes, par tout un tas de publics. Voilà.
Alors, comment vous l'avez mis en place ? C'est-à-dire, vous avez travaillé d'une façon collective aussi ? Vous étiez plusieurs dans un atelier ? Comment c'était reçu ? Concrètement, comment ça a fonctionné ?
Comment ça a fonctionné ? Là, je parle avant que la revue existe, quand on est, pour beaucoup d'entre nous, des enseignants, on le met en place dans nos classes, on le met en place dans des stages institutionnels, on le met en place avec des publics, c'est souvent des publics actifs, hein, ce qu'on appelle. Ça peut être, certains après l'ont fait dans avec des gamins, y compris même avec des gamins de maternelle. Bon, ça paraît bizarre, mais ça peut se faire. Ça peut se faire dans des hospices, ça peut se faire avec des personnes âgées, etc. Donc là, ça se met en place avec tout un tas de consignes et de contraintes, et ça, on l'a mis en place dans le cadre de ce qu'on a appelé donc le tous capables. Après, je dis bien, nous, quand je parle de la revue Soleil et Centre, on a voulu se prouver quelque chose d'autre pour aller plus loin, tout en gardant une structure de fonctionnement qui est la même, mais pour essayer de faire une production, si possible, de qualité et qui soit reconnue. Donc tout ça, ça s'est fait avec tout un tas de publics, ça continue à se faire. Après, il y a plein de gens qui ont pris le relais. Le problème est que sur cette appellation, il y a tout un tas de choses. Il y a des animateurs d'ateliers d'écriture, qui sont très bons ateliers d'écriture, qui sont capables de faire attention à tout le monde, de laisser personne sur le bord de la route, quand quelqu'un décroche d'être là, d'être dans l'empathie, d'être dans l'attention, être dans l'écoute, de savoir relancer et autres. Ça, ce sont des animateurs d'ateliers d'écriture. Pas obligatoirement des écrivains ou des gens qui vont faire carrière dans l'écriture. Et puis, il y a des écrivains maintenant à qui on va donner le statut souvent d'animateur d'ateliers d'écriture, qui sont très bons écrivains, mais qui ne s'improvisent pas automatiquement ateliers d'écriture. Il y a aussi toute cette ambiguïté qu'on retrouve et autres. Parfois, certains arrivent à joindre les deux. Voilà. On va continuer le compagnonnage avec Karen Dalton et un deuxième titre qui s'appelle Sweet Substitute. Effectivement.
My man went away. Thank you.
my man went away. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. Sweet substitute. Sweet substitute. He tells me that he's mine, all mine. Every time I tell him, you know love is blind. He's got such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. Such loving ways. Got my head in a daze. My new recruit is mighty sweet and cute. I'm crazy about my substitute. Crazy about my substitute.
Au fil des arts sur Couleur FM 97.1. Claude, je crois que vous avez quelque chose à nous lire.
Oui, alors un texte, j'ai parlé tout à l'heure de Pierre Collin, un copain qui a disparu, qui travaillait beaucoup sur l'atelier d'écriture et sur les mythes. Je dirais deux, trois mots après sur les mythes et sur la façon de réutiliser les mythes, de les réutiliser avec avec les stéréotypes culturels, avec avec des images et avec plein de trucs. Voilà. Mais vos épaules entrevues, dans l'embrasure du vent, j'ai su la mer à presque la toucher. Ce hiératique échéancier du temps. Je sais aussi cet embrasse au rideau où l'épervier s'offre à l'espar des cyprès. Tout autant votre corps pentelant, c'est l'éphèbe fait femme quand il n'est de parfait rien autre que la lumière éperdument hantée à la voracité des baisers. Je sais encore le baptême où l'éphémère nous a saisis, un sein si blanc, une jarre de grès, la chrysalide dans vos yeux, l'ombre du Nil si douce à l'empan de ma main. Je serai là où tout s'est tu, mais vos épaules, le saviez-vous?
C'est magnifique. Alors, quelques mots de ce texte.
Alors, ce texte, par rapport à Pierre, c'était un texte de Pierre Collin, c'est une forme de décalque par rapport à un texte, parce qu'on avait fait une revue qui, bon, après son décès. Et c'est un texte, lui faisait référence à l'Égypte, moi j'ai fait référence, j'ai décalé en faisant référence plutôt à la Grèce, mais c'est quelque chose qui mélange vraiment les mythes. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de réinvestir le mythe, parce que le mythe est fondateur. Le mythe est quelque chose qui nous a constitué, qui constitue notre écriture, notre façon de penser, notre façon de diviser et de serrer et de hiérarchiser le monde et le mettre en confrontation avec des images, avec des souvenirs, avec des images de cinéma, avec des choses de la culture d'aujourd'hui, et d'essayer de, voilà, moi je m'autorise à réécrire le mythe en me servant de ce que me constitue de mon fond culturel. Je mets des guillemets pour ne pas avoir l'air trop prétentieux.
Alors Claude, on a envie de savoir comment est-ce que vous procédez pour écrire ? Qu'est-ce qui vous motive ? Comment vous faites ? J'ai retenu une phrase où vous avez dit « Écrire pour moi, c'est effleurer quelque chose qui m'échappe au plus près de l'énigme et en même temps toujours au plus loin. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je me suis aperçu, et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment, que je lisais de la poésie, bon, pas tant que ça d'ailleurs, c'est le paradoxe, mais j'en lis quand même, et puis à certains moments j'ai l'envie, même si je suis tout seul, à la mettre en voix, etc. Et je me suis aperçu que je me ressentais d'un seul coup à bout de souffle, presque en apnée, quand j'avais l'impression, dans ce que je lisais, de me retrouver en me disant « Je suis en train, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, le gars qui a écrit. Je suis en train, je crois que je suis en train de comprendre ce qu'il a voulu dire. Je vais arriver à comprendre, il ne me manque pas grand-chose. » Et au moment où je suis là, hop, ça s'en va et je me dis « Je n'ai jamais été aussi loin de comprendre. » Et c'est cette contradiction totalement inconciliable, totalement irréconciliable. Mais c'est justement parce que c'est une contradiction et parce qu'elle est irréconciliable et qu'elle, comme ça, elle bouscule tout, qu'elle est phénoménale. Et chaque fois que je me retrouve dans cette situation paradoxale, je me dis qu'il y a effectivement quelque chose, je suis très près de quelque chose. Alors oui, on est presque là à toucher. Mais peut-être aussi que ma façon de fonctionner, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'effleurement. Vous savez, il y a des gens dans la vie, quand ils rencontrent des gens, ils viennent, ils sont là, ils discutent, et au moment où on va vouloir les retenir, ils s'en vont. Ils vous ont effleuré, ils partent. C'est pas terrible, c'est un mode de séduction un petit peu particulier, c'est peut-être aussi parfois comme ça que j'ai fonctionné. Et c'est pas totalement anodin que ça soit quelque chose dont je me suis emparé dans l'écriture et qui fonctionne pour moi. Donc j'essaie aussi parfois dans mon écriture de retrouver quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire au moment donné où je sais plus exactement ce que je suis en train de dire, eh ben j'arrête et je laisse. Ou alors je modifie tout. Enfin ça c'est autre chose. Bon, voilà. C'est l'écriture. Si je dois parler de mon écriture, j'écris en atelier d'écriture. Alors même que je, pas toujours. Des fois, il y a des copains qui viennent, font des animations. J'aime de toute façon ça. Quand je suis tout seul, en fait, dans ma tête, je me fais mon petit atelier d'écriture qui est pas dit comme tel, mais quelque part, je fonctionne souvent de ce truc. Et au-delà d'un certain nombre de consignes et de contraintes très précises sur l'écriture, sur la façon d'écrire, sur un certain nombre d'éléments ou de coins comme ça, de pièces que je fais venir pour faire bouger l'écriture, je fonctionne sur... j'essaye de revendiquer, à un moment donné, l'incongru. Ce qui fait incongruité pour moi. Ce qui est de l'ordre du tabou, mais le tabou, il faut à un moment donné le dépasser, il faut se laisser aller, plonger très loin en soi, et ensuite travailler peut-être à récupérer ce qu'on a écrit pour lui donner du sens, pour faire que ça soit lisible par soi, par les autres, acceptable éthiquement quelque part à l'intérieur de soi. Moi, ce qui m'intéresse moi, c'est à travers la constitution d'une matière, c'est de me retrouver, à un moment donné, confronté à des imaginaires, à des choses, dit, tiens, ça fait partie de mon imaginaire, ça fait partie d'un de mes imaginaires, ça fait partie d'un autre de mes imaginaires, de les débusquer et de les mettre en conflit. Ce qui me paraît important, c'est de les mettre en conflit, c'est-à-dire de les mélanger, de voir à ce que nous amène, de voir si ça fait des croisements, etc. C'est ce que j'appelle par moment de l'aléatoire, mais c'est de l'aléatoire provoqué et sur lequel je vais m'appuyer pour avancer. Alors j'ai parlé du mythe tout à l'heure, le mitre est investi. J'ai parlé de tout un tas de choses. On a parlé de l'énigme, de la théorie de l'effleurement. Dans mon écriture, j'aime à un moment donné accepter de me laisser. Alors, c'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce que je suis dans la maîtrise ou la non-maîtrise ? Est-ce qu'il y a des moments où je suis dans la maîtrise ou la non-maîtrise ? J'en sais rien. Les gens que je côtoie disent que t'es toujours dans la maîtrise, Claude. Je sais pas. J'ai du mal. J'ai besoin par moment de perdre un petit peu de cette maîtrise, donc d'accepter de me laisser déstabiliser par la production, de me laisser décontenancer par ma propre écriture, pour que ça me fasse rebondir vers des choses que j'ai pas imaginées. Ça me paraît essentiel dans l'écriture. L'idée, c'est de sortir de son écriture. Il faut donc créer les conditions de l'advenu, de l'aléatoire, du heurt entre les choses. Et ça, c'est, pour moi, ça me paraît, on va reprendre quelque chose qui a à voir avec le son, la sonorité, les micros, un amplificateur de dérivation. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet de toucher, de mélanger les choses. Et ça permet effectivement de faire qu'il y ait toujours quelque chose d'énigmatique. Une écriture n'est lisible pour moi que si elle est énigmatique, à un moment donné. Si subsiste quelque chose de l'intrigue, si tout est dit, c'est plus la peine d'écrire. Ça n'a plus aucune importance. Si tout est dit, ce qu'il faut que le lecteur pense, ce que j'ai dit, et voilà, c'est ça et rien d'autre, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, je précise bien. Donc, y a aussi le fait que dans un texte, on est parfois sur un niveau de langue. Après, on est sur un autre niveau de langue. Des choses, il faut accepter peut-être de les confronter. Il faut accepter de les confondre. Il faut accepter de les mélanger. Il faut accepter l'affrontement des champs sémantiques qui n'ont rien à voir. Il faut accepter aussi quelque chose que j'ai mis longtemps à accepter, qui est par rapport à la grammaire, les structures de grammaire, de les modifier, d'en faire des hérésies, de fonctionner dans la grammaticalité, le suffixe privatif. J'entends bien. Et tout ce mélange-là fait que, à un moment donné, le texte va résister, et si on n'a pas remis trop de filtres, trop de masques, ça peut arrêter le lecteur qui va chercher à se dire, bon sang, qu'est-ce qui est en train de se passer là-dedans. Donc tout ce qui est de l'ordre du dérangement, de la déviation, de la diversion, de la distorsion, ça c'est encore un terme de musique, pour moi quelque chose d'essentiel. Voilà. Bon, après, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait dire. J'essaye de retrouver des notes que j'avais notées, ouais. Voilà.
On a l'impression à vous écouter que... À la fois, vous êtes dans une position très forte, puisque vous décidez des conditions de votre écriture, mais qu'en même temps, vous vous trouvez devant les mots, et que ce sont les mots qui sont les plus forts.
C'est les mots qui dictent. Moi, j'ai besoin d'être bousculé par mon écriture. Je ne maîtrise pas tout. Oui, on peut dire que je suis le créateur, mais je suis aussi la créature. Il faut que je sois les deux. Sinon, ça peut pas fonctionner. Si je suis dans quelque chose où j'ai cette impression-là, que je suis celui qui écrit, mais celui aussi qui est en train d'être écrit par l'écriture à son corps défendant, eh ben, tant mieux pour lui ou tant pis pour lui. Ça, c'est pas grave. La poésie, pour moi, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Là, j'ai essayé de le noter sur un petit bout de papier. Donc, je vais m'en servir. On va partir, par exemple, d'un objet tout simple, un objet du réel. Un objet du réel, à un moment donné, on le regarde. Et puis, à un moment donné, on a besoin d'en rendre compte. Pour en rendre compte, je vais utiliser ce qu'on appelle un code de substitution, qui va être l'écriture. D'accord ? Donc, je vais utiliser cette écriture, ce code de substitution, de façon à ne plus être comme l'enfant avec la mère, plus être dans la confusion avec l'objet, mais être dans la dissociation avec l'objet, et de porter un jugement sur cet objet. Et quand l'écriture porte un jugement ou une analyse sur cet objet, dans l'écriture poétique, travailler, intensément travailler, la langue n'accouche que quand elle est en travail. Quand c'est travaillé par l'écriture, on est dans quelque chose qui est d'une dissociation, donc on est dans la théorisation. Plus on travaille la langue, plus on va dans une forme abouti de théorisation, donc de quelque part non pas d'explicitation aussi, ou d'explicitation à soi-même de son rapport au monde, comment on se situe au monde. Mais il y a besoin, c'est ce travail de l'écriture, ce dérangement de soi-même, ce dérangement hors de soi-même, qui va permettre d'avoir ça.
Alors Claude Nerfex, quand je vous entends, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est paradoxe et contradiction. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, je ne sais pas trop quoi dire. Je sais simplement que je suis sans doute un bloc de contradiction et de paradoxe. Pour moi, il faut que la langue ne soit pas quelque chose qui roule tout seul. Il faut qu'à un moment donné, les mots entrent en conflit, ils entrent en réaction. Ils ont qu'en fusion, il faut même, je connais pas grand chose à la terminologie scientifique, mais de la fission nucléaire. Enfin, il faut quelque chose qui soit, qui me sorte de ma zone de confort, où je sais écrire, où j'ai appris à écrire, où je suis obligé d'aller retrouver des choses très très loin, qui n'ont rien à voir ensemble, mais que je vais raccrocher, que je vais raccorder, que je vais récupérer au dernier moment, comme un rugbyman fait une cuillère au gars qui va marquer un essai au dernier moment, récupérant juste par le bout du talon. Bon. Voilà, donc c'est ça. Je m'excuse pour la métaphore rugbystique. C'est juste,
voilà. En même temps, on est à Bourgoin.
Oui, alors je pourrais éventuellement rajouter énormément de choses sur la contradiction et le paradoxe. Et simplement redire, parce qu'il me semble que j'aurais dû le dire un petit peu plus, que le travail sur la langue, il se fait par la constitution la plus large possible d'un matériau de travail. Plus le matériau est dense, plus il est important, plus il y a de mots, plus il y a d'expressions, plus il y a de registres, plus il y a de directions, plus il y a la possibilité après de trouver quelque part un nœud qui va permettre de tirer la pelote et d'écrire un texte. Parce que je viens pas avec « je vais écrire là-dessus ». Voilà, ça je veux le redire. C'est essentiel, c'est un travail et il faut avoir effectivement, il faut pouvoir se constituer du matériau. C'est pas grave de dire « j'ai besoin d'avoir mon matériel, d'avoir mes outils, d'avoir mes blocs de ciment, d'avoir tout ça, j'en ai besoin de ça ». Et c'est à partir de ça que je vais me lancer dans l'écriture et qu'on va retrouver les paradoxes et qu'on va retrouver tout ça. Voilà.
I love you, baby, ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Put your hand in mine. I've got something to tell you, darling. I want to change your mind. If things are going wrong for you, you know it hurts me too. Hurts me. Thank you.
love you, baby. Ain't gonna lie. Without you, darling, I can't be satisfied. If things are going wrong for you, hurts me too. You know it hurts me too.
Au fil des arts sur Couleur FM 97.1.
Alors, le troisième morceau, c'est toujours Karen Dalton, qui fréquentait beaucoup les circuits des clubs à l'époque de John Baez, de Bob Dylan, de Tim Harlin. Peut-être de Tim Buckland, mais je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est un petit peu après. Et le troisième titre qui s'appelle « It Hurts Me Too ».
Alors Claude, vous avez parlé d'affleurement, vous avez parlé de confrontation, ouais. On a parlé de contradiction. Mais au bout du compte, tout ce travail qui est considérable, est-ce que vous visez quand même la recherche d'un sens et éventuellement lequel ? Est-ce que...
Alors, le sens dans la longueur du travail, dans le processus de travail, n'est pas prioritaire dans un premier temps. Dans un premier temps, il y a cette confrontation de soi-même, de l'individu, avec la matière et de se débattre au milieu de tout ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui va faire signe, un clin d'œil, quelque chose que je vais récupérer, une petite pépite quand j'aurai bien tamisé mes pépites d'or dans la rivière, je sais pas, peut-être dans l'Ariège, n'importe où. Et c'est là qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va peut-être me paraître moins intéressant, que je vais essayer de constituer, de tirer la pelote comme un fil d'une pelote de laine, d'y mettre de la cohérence, et là va venir effectivement à la rescousse un certain nombre de choses qui ont pu être acquises, etc., de réflexion, et on va ordonner en quelque sorte un petit peu le texte autour d'une matrice. Et c'est là que le sens, petit à petit, va prendre sa place. Le sens que je crois y mettre, sachant que le sens qui met le lecteur n'est pas le même et que ça n'a pas une importance considérable. Mais effectivement, ce n'est pas prioritaire. Au départ, il faut se constituer la matière, il faut se battre avec, moi je pense, et il faut se laisser surprendre, être là à un moment donné, presque pantelant, et puis se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Et quand il y a quelque chose, quand deux sphères vont se toucher, qui n'ont rien à voir, mais vont produire des étincelles, il faut peut-être densifier ce qu'il y a là. Et c'est là que le sens va prendre sa place, je pense, oui. Moi, je vois comme ça, en tout cas.
Alors, Claude, après les ateliers d'écriture, le collectif Soleil et Cendres a aussi fait des performances poétiques, musicales. C'était des vrais spectacles.
Alors, oui, on a... ça, c'est le problème entre ce qu'on va appeler la... Moi, je dis toujours les deux mêmes termes, la visibilité et la lisibilité. Au bout de quelques années de revue, les gens qui nous suivaient, les abonnés entre autres, nous ont dit « Vos textes sont difficiles à lire ». Ils n'ont pas dit « élitistes », mais quelque part, il y avait en filigrane un petit peu ce type de reproche. C'est donc ce qui a présidé aux premières lectures qu'on a fait, lecture publique. Alors en général avec un accompagnement musical qu'on essayait d'intégrer avec des gens qui ont l'habitude de faire ça. Et on s'est dit, on va voir si des textes qui ne passent pas la rampe dans l'écriture ou qui résistent trop, faut qu'un texte y résiste, mais des fois il résiste trop. Si un texte qui résiste trop peut être pris, compris, pris en charge par un public dans le cadre d'une lecture. Donc on en a fait beaucoup à une époque. On a, entre autres, mis en scène des numéros doubles consacrés à un auteur dans la globalité qu'on a lu. On a fait des extraits de textes, tout ça. Un petit peu moins en ce moment. Sauf ceux du Vaucluse qui travaillent un petit peu là-dessus. Donc, à différents, des fois, ce sont des gens qu'on va solliciter. On a eu fait une ou deux interventions il n'y a pas si longtemps que ça à Majolire, à Bourgoin-Jallieu, par exemple. Et puis, moi, à titre personnel, j'ai continué à travailler sur la lecture de textes dans certains contextes de façon plus continue. Plus importante et un peu plus personnelle, disons. Là, on est plus dans un parcours individuel, effectivement. Il se trouve que j'ai l'occasion d'aller tous les ans, depuis une dizaine d'années, à Uzest, en Gironde, où il y a, depuis, je ne sais plus, 35 ans, je ne sais plus maintenant, ce qu'on appelle la Estrella de las Arts, qui est la fête des arts, effectivement, sur le versant de la création. On a parlé de tous capables tout à l'heure, on va parler de tous créateurs. Ça, c'est un festival qui est dirigé par la compagnie Lubat, donc Bernard Lubat. Et on y est, nous, dans le contexte de créateurs. Donc, on est amené à faire deux choses. Dans ce qu'on appelle le gueuloir, bon, qui est un terme qui a été utilisé, je ne sais plus par quel poète, il y a très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de hurler. Mais bon, donc c'est un peu le off, j'allais dire presque, de Uzès, dans lequel il y a tout un tas de lectures et tout le monde peut intervenir. Ça, on le fait tous les jours. Et puis, comme le festival est un festival par des musiciens, essentiellement des musiciens de jazz, et qui travaillent depuis le début qu'ils ont commencé sur l'improvisation, un certain nombre d'entre nous ont, je commence à bafouiller, ça doit être la fatigue, ont commencé aussi à travailler sur ce que pourrait être l'improvisation orale poétique. Alors, il faut faire le tri dans tout ça. Parce que l'improvisation orale, depuis une dizaine d'années, moi j'en entends parler de tous les côtés. Il y a des gens qui sont très forts là-dessus, qui sont impressionnants, mais qui sont dans un travail qui est plus de l'ordre de ce que j'appelle le sketch théâtral. L'improvisation avec des matchs, avec des compétitions, etc., avec des plaisanteries, des vannes, le sketch théâtral très bien fait, avec des gens qui sont capables de rebondir très vite. Moi, ce qui m'intéresse, mais après, il y a des différenciations, c'est quand on écrit, qu'on a tout son temps, qu'on peut mettre de la distance entre soi et le moment où on écrit. Ça, c'est facile. Mais comment se débrouiller avec ça et comment, dans une intervention orale, compenser ce manque de distance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un intérêt? Parce que quand on fait une improvisation à partir d'une expression, d'un mot, d'une métaphore qu'on a dans la tête, qu'on se donne soi-même, hein, ça, c'est pas les autres qui vous la donnent. Moi, je pars du principe, je me donne mon point de départ. Mais c'est tout. Après, sur un temps court, est-ce que c'est possible de tenir en essayant de, malgré tout, de rester dans un discours, qui a la même densité ou une densité proche de ce qu'est un travail écrit, sachant que on est sans arrêt en déséquilibre. Il suffit de bredouiller, de se tromper sur une syllabe, de pas choisir le bon mot, et on se retrouve complètement déconnecté de ce qu'on veut dire. On peut se retrouver à un moment donné bloqué à plus rien dire. Moi, ce que je veux, c'est sûr, est-ce que c'est possible sur une minute trente, deux minutes, d'avoir quelque chose qui fasse penser à du Léo Ferré, par exemple, par moment. Toute proportion gardée, c'est très prétentieux ce que je dis. Mais voilà, de quelque chose qui puisse, des fois, avoir des accents qui vont dans ce registre-là. Parce qu'il y a une bousculade de mots. Il y a une bousculade de mots, cette bousculade, elle est phénoménale. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse, à certains moments, dans certaines conditions, se donner les moyens d'enregistrer ce qui se passe à ce moment-là. Alors, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Mais pour l'analyser, je disais presque sociologiquement, savoir ce qui se passe, parce que ce qui vient à ce moment-là, là, on est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la maîtrise, ou très peu. Si, on a quelques petits réflexes culturels sur lesquels on va s'appuyer, mais ils sont vite battus en brèche. Donc, quel est le statut de ce qui sort, et que pour moi, j'appelle de l'obscène? Est-ce que l'obscène, ça a un sens? Est-ce que c'est possible? Il faut, quand on est dans le risque de la langue, quand on est dans le risque de cet écart monumental qu'il peut y avoir avec sa propre norme consciente. On se dit, quand on écrit, non, ça, je vais pas l'écrire. Au dernier moment, on rature. On écrit autre chose, on change. Ça arrive, ça. On ne devrait pas le faire, mais ça arrive, etc. Dans l'oral, on ne peut pas le faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'écart à cette norme qui fait qu'on bouscule sa propre éthique, est-ce que c'est entendable? Quel statut ça doit avoir? Et pas. Moi, ça me passionne, effectivement.
Claude, je vous remercie vraiment. C'était un moment passionnant. Ouais. On a aimé votre fougue, vos tardeurs, vos paradoxes, vos contradictions. Enfin, c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc, c'était vraiment Claude Nierfex de la revue Soleil et Cendres. Il y a une autre revue qui s'appelle aussi Les Soleils et Cendristes. Si vous voulez retrouver tout cela, allez sur le site de Soleil et Cendres.
Merci Claude.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.